Je suis ici donc pour vous parler d'un projet qui est en train de devenir réalité, qui s'appelle In-Out. Il s'agit d'un projet qui est que nous montons au situ depuis maintenant 2 ans et demi, hein, quelque chose comme ça, et qui est un projet, on va dire un projet laboratoire, un projet création, un projet de création et un projet de réseau de création. Et c'est un projet jusqu'à maintenant, et donc ça devient une réalité. Donc ça s'appelle In-Out en tant que projet global. Et X.0, c'est la version de ce projet qui ouvre dès lundi dans 8 lieux différents. Alors je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. D'abord, je dois vous expliquer de quoi il s'agit en ce qui concerne le situ, donc qui est à l'origine de ça. Alors, habituellement, on évite de décliner l'acronyme, qui est création interactive transdisciplinaire universitaire. En fait, c'était presque un gag. On devait faire un moteur de déclinaison d'acronyme. Et il a été fait, mais on ne l'a jamais mis en ligne. Donc voilà, on est condamné à appeler les choses comme ça. Mais en fait, chaque terme indépendamment est presque juste. Création, oui, mais pas toujours. Interactive, oui, mais pas toujours. Transdisciplinaire, le plus souvent, mais pas toujours. Universitaire, si possible, mais pas toujours. Donc le situ, c'est une sorte d'ovni construit entre deux universités au départ et qui ensuite travaille en collaboration avec des écoles d'art, avec des associations, avec différents types d'organismes, mais aussi avec des artistes directement, avec des chercheurs dans différents domaines. L'idée étant d'explorer aussi loin que possible les possibilités d'appropriation des technologies par les artistes, mais aussi de se poser la question de pourquoi, comment, jusqu'où ça va, à quoi bon. Donc une des hypothèses du situ, c'est que la recherche en elle-même, puisque ça se présente comme un laboratoire et que ça s'appuie sur des laboratoires de recherche, la recherche en elle-même puisse être considérée comme une forme de création. Donc on essaye de créer des situations de recherche qui sont elles-mêmes des situations artistiques. Et puis que la création peut être aussi une forme de recherche. C'est-à-dire que dans la création actuelle, il y a des possibilités de prise de risque, d'expérimentation, d'exploration, d'essayer des choses qui n'ont peut-être pas été complètement essayées, de vérifier, de se planter, de réussir. C'est le propre de la recherche et c'est ce qu'on met en jeu. Donc, In-Out est un projet qu'on a lancé en 2006, et qui est fondée sur l'idée qu'il puisse y avoir des artistes et des chercheurs qui ont une relation commune, et justement ce qu'ils ont en commun, c'est la relation, c'est-à-dire le fait de rentrer dans un système d'échange, un système de transaction, et un système finalement où chacun pourrait prendre quelque chose à l'autre et pourrait alimenter l'autre avec ce qu'il produit. C'est en cela qu'on parle de création peer-to-peer. C'est-à-dire que le projet In-Out a quelque chose en commun avec le peer-to-peer, c'est l'idée que chacun puisse avoir de la matière avec laquelle il peut alimenter les autres. La différence entre la création peer-to-peer et la consommation peer-to-peer, c'est que la matière avec laquelle on alimente les autres, eh bien, c'est de la matière qu'on a produite. Autrement dit, dans le projet In-Out, chacun est à la fois producteur, créateur et consommateur, on pourrait dire. Autrement dit, j'ai un projet de création en ligne, j'ai un projet musical, j'ai un projet de performance, j'ai un projet d'installation. Ce projet a besoin de sources, au singulier ou au pluriel. Il a besoin de musique, il a besoin de son, il a besoin de données, il a besoin d'images. Et donc je vais prendre sur le réseau ces sources, cette musique, ces données, ces images. Comme ça provient d'autres créateurs, eh bien je suis dans une boucle, dans un système d'échange. Et mon projet va lui-même ensuite fournir de la matière que d'autres pourront utiliser. Autrement dit, du son, de l'image, des données, etc. Alors ça paraît simple, évidemment, et ça pose un certain nombre de questions. L'avantage du système, c'est que c'est une sorte de laboratoire expérimental en soi, c'est un dispositif expérimental, mais néanmoins qu'il a pour finalité de faire en sorte que des artistes puissent se l'approprier, faire leur propre projet, et leur projet, il se nourrit, donne, donc chacun est totalement responsable de ce qu'il produit, et néanmoins, il est dans un système d'échange. Il n'y a évidemment rien d'original dans le fait d'être dans un système d'échange, ni de prendre, ni de donner, puisque c'est parce que la chose est devenue extrêmement commune sur le réseau et ailleurs, c'est-à-dire l'idée du sampling, l'idée du collage, du prélèvement, de l'assemblage, du mixage, etc. C'est en soi absolument pas original. La particularité du procédé ici, c'est la qualité de la relation qui est établie entre les gens, c'est-à-dire le fait que chacun soit bien dans un système où il prend et il donne. Et donc, à partir de là, toute la question est de savoir quelle est la logique d'interconnexion, qu'est-ce qui fait qu'on est connecté à tel ou tel projet, que l'on prend telle ou telle source. Et donc, tout le travail sur In-Out est à la fois de rendre possible la création dans ces conditions-là, et d'autre part, de voir comment elle peut amener à s'interroger sur un modèle social, un modèle relationnel qui va permettre le développement et la multiplication de créations qui fonctionnent comme ça de façon purement transactionnelle. Donc on est vraiment dans la transaction, on est vraiment dans l'échange, et c'est cet échange qui donne du sens et qui donne sa raison d'être à ce qui est produit. Donc, l'événement X.0, qui est un nom un petit peu comme un autre, qui est là pour dire que on ne sait pas si c'est la première version, la dernière version, une version intermédiaire, quelque chose qui méritera d'être développé ou arrêté. Évidemment, on a dans l'idée que nous sommes là dans la première version multilieu qui fonctionne, dans la réalité. Parce que nous avons fait une autre version avant qui se faisait dans un seul lieu où les œuvres étaient interconnectées. Là, ça se passe sur 8 lieux. En 9 actes, parce qu'il y a 9 installations qui participent au projet et qui se retrouvent donc réparties sur les 8 lieux. Je vais en reparler. Et on est là dans un moment où à la fois le moteur d'échange et de transaction est opérationnel, et en même temps, on assiste vraiment à des créations dont on considère qu'elles ont leur valeur propre. Donc ce qui est très important de préciser dans le projet In-Out, c'est qu'il ne s'agit pas d'une œuvre collective. C'est bien un ensemble d'œuvres qui sont totalement revendiquées par leurs auteurs, mais qui ont une particularité, donc c'est d'être interconnectées. Donc, la chronologie, je vais quand même vous la dire, hein, parce que je la connais un peu. Là, ça veut dire que ça a commencé en 2006. Donc, la chronologie, c'est qu'en 2006, on a fait un premier appel à projet. C'est un des modes de fonctionnement, mais vous verrez qu'ensuite, évidemment, on n'a plus du tout de raison de passer par des procédures telles que celle-ci. On a fait un appel à projet. Les artistes ont proposé des projets interconnectables, on va dire. Et à partir de cet appel à projet, on a organisé un workshop où il y avait donc une dizaine d'artistes participants, un certain nombre d'intervenants qui apportaient leur savoir-faire dans les technologies, on va dire, de production en ligne, de production dynamique, de création de flux, etc. Donc cette expérience a débouché après un travail d'accompagnement donc qui a fait le situ sur plusieurs mois, a débouché sur une exposition qui avait lieu, je crois, en juin 2006, qui a eu lieu à Paris 8, qui s'appelait Expo Labo, et où, à l'intérieur du labo, on a montré ses travaux en gestation dans une phase purement expérimentale, purement laboratoire, on va dire. Et il y avait des travaux extrêmement différents qui touchaient caméras regardant les vols des avions aux États-Unis mélangés avec un générateur de plans immobiliers à Paris et un outil qui travaillait un petit peu la mémoire des transactions. Depuis, donc, c'est passé un certain nombre d'étapes un petit peu essentielles, notamment donc en novembre 2007, il y a eu un nouvel appel à projet où là, nous avons demandé à des artistes et des chercheurs scientifiques de candidater pour participer à un, j'allais dire un workshop, mais c'était presque plus un séminaire, c'est-à-dire une situation où on est tous pair à pair, hein, entre pairs, on va dire. Et où on discutait un petit peu de ce que pourrait être à la fois une série de productions, de créations qui utiliserait comme ça l'in-out, et en même temps comment l'architecture même du système pourrait survivre, se développer, exister. Donc, à partir de là, les 9 projets qui vont exister sont mis à apparaître. Donc il y a les installations plutôt musicales, plutôt visuelles, vous allez voir. Enfin, je vais les évoquer et puis certains vont pouvoir s'exprimer plus directement dessus puisqu'ils sont là, donc ça tombe bien. J'aperçois ici Pierre-Julien de la Fuente qui a travaillé sur le développement de l'outil d'interconnexion et qui est évidemment la pièce maîtresse du projet puisqu'elle permet... Elle rend possible les échanges et les transactions, et selon des éléments architecturaux, mais Pierre s'exprimera aussi par la même occasion, c'est ça qui est bien, c'est puisque tout le monde est là, on va rester totalement interactif. Sur la question de la création transactionnelle, en fait, il ne s'agit pas de mettre des étiquettes comme ça sur les choses, en fait, ça a assez peu d'importance. Ce qui va être important, en fait, c'est le résultat. C'est ce qu'on produit. On attache une certaine importance au processus et une autre importance non négligeable au résultat. C'est-à-dire qu'on veut en aucun cas que ce qui est produit serve à des démonstrations de la démonstration du procédé, ce qui est mis en œuvre, sachant que le réseau lui-même est un prétexte à la création et un prétexte aussi, je disais tout à l'heure, à la recherche. À partir de là. On essaye dans cette première version de la version X.0, de jouer le rôle du déclencheur. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on souhaite, c'est que ce premier groupe qui sert au lancement, je dirais, qui permet le lancement du projet au travers de ses créations, eh bien, fasse en sorte qu'ensuite, on se sente libre d'agir. Et tout le projet est conçu comme ça. On se sent libre d'agir en ligne, de connecter des lieux ou pas de lieux, de connecter chez soi ou ailleurs, bref, de participer. Et donc le projet ne nécessite aucun contrôle dans les entrants. Et ça, c'est très important au niveau de la logique d'in-out, c'est que quand il y a des lieux qui participent parce qu'ils présentent des installations physiques, ben, ces lieux font leur travail de commissariat, entre guillemets, c'est-à-dire sélectionnent leurs artistes, leurs projets, présentent ce qu'ils veulent présenter, et c'est un engagement du lieu. Je dirais qu'il n'est pas impossible que le prochain appel à projet sollicite des lieux, en disant après ça, vous sollicitez des gens, c'est votre choix, et c'est ce qui s'est passé ici, et la maison populaire fait partie de ces lieux. Le projet sollicite des lieux. Mais d'un autre côté, en réseau, tout le monde peut se connecter librement. On peut même imaginer qu'à l'occasion du prochain événement, des lieux décident de se connecter sans avoir à rendre compte de quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour la bonne raison que si on met des flux d'images, de sons, on les rend disponibles, ils sont disponibles à tous et c'est la règle du jeu. Et donc à partir de là, tout le monde doit pouvoir les utiliser. De la même manière, la logique de développement du projet In-Out est une logique, autant que faire se peut, open source, qui fait appel donc soit à des logiciels open source, soit qui permet de prolonger le développement, de créer des plugins qui permettent d'alimenter l'évolution de la chose. L'idéal étant que progressivement, le projet soit complètement absorbé sans qu'il soit nécessaire, par exemple, que le situ intervienne dessus. Je ne dis pas que le situ continuera pas d'observer, mais parce que c'est ce qui est intéressant en déclenchant une situation comme ça, relativement, je dirais, cadrée formellement, puisqu'on dit qu'il y a une règle. S'il n'y avait aucune règle, là, évidemment, on pourrait dire que c'est totalement libre. Or, la règle, c'est juste que si on prend quelque chose, on donne la possibilité, on donne quelque chose pour que d'autres puissent l'utiliser. C'est tout. Je dirais que ça se limite à ça. Après, il y a des règles de compatibilité, c'est simple. Si on n'utilise pas, évidemment, de format compatible, ben, ça ne passera pas, et puis voilà. Et puis, ce n'est pas très grave. Hein, c'est un choix. Donc, on choisit de participer ou de ne pas de participer. Il n'y a pas de système de valeurs. L'idée à la fois d'observer comment ça fonctionne, parce que pour un laboratoire, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, d'aider à développer la chose, et puis de voir ce que ça peut révéler, mais aussi, on l'espère, de permettre à des artistes de rendre possible des projets par ce contexte-là. Ce qui est important, c'est que la plupart des informations, vous les trouvez donc sur un wiki qui se trouve à cette adresse-ci, donc in-out.situ.fr/wiki. Évidemment, si vous faites situ.fr ou situ.info, vous trouverez les liens directement, et donc ça n'est pas un problème. On a été obligé de définir évidemment des protocoles en ce qui concerne le choix des flux. Mais ces protocoles sont décrits et on espère qu'ils vont s'élargir de plus en plus, notamment en sollicitant justement des participations techniques, en sollicitant des gens qui seraient intéressés par faire avancer la chose. Comme vous l'avez compris, on n'est pas du tout dans une démarche commerciale. Donc, à la fois, on se retrouve face à un logiciel, on va dire, de création peer-to-peer, et d'un côté, dans quelque chose qui est supposé avoir progressivement un maximum d'autonomie. Évidemment, la particularité, et je crois que je ne l'ai pas précisé dès le départ, puisque là on parle de flux, c'est qu'il existe des tas de logiciels, évidemment, peer-to-peer, mais il en existe peu qui sont faits pour échanger des flux. Habituellement, on échange des fichiers. Il y a un fichier qui a un début, une fin, une certaine quantité, on le récupère, on est content, on a le fichier, il nous appartient. Or, il y a toute une partie de la création qui est fondée, évidemment, sur le fait que c'est une création dynamique, qu'elle se nourrit de flux et qu'elle produit des flux. C'est plutôt celle-ci qui est concernée par le projet. Donc, j'aurais dû le dire dès le départ. Alors, évidemment, tout ce qui est musical, tout ce qui est son, se prête assez bien à ce projet. Toutes les formes génératives s'y prêtent, évidemment, beaucoup mieux que des formes qui seraient complètement figées. Beaucoup de projets qui apparaissent sont des projets de monitoring, c'est-à-dire, évidemment, on s'intéresse tout de suite à savoir comment ça fonctionne et on a envie de mettre en scène, le processus lui-même. Donc, il y aura, dès cette fois, des possibilités de monitoring. Néanmoins, c'est quelque chose qui va se développer, évidemment, de façon importante, parce que autant il sera intéressant de voir les œuvres en ligne, pouvoir les explorer dans des lieux pour les installations. Il sera intéressant évidemment aussi de voir comment tout cela s'échange. Et je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que l'on puisse, si on peut observer les différents flux, choisir les flux qui servent à alimenter notre travail, mais aussi imaginer que les interconnexions ou les relations entre les flux se font selon des algorithmes qui sont des algorithmes de préférence variable, mais qui peuvent être aussi des algorithmes génétiques, des algorithmes évolutionnistes, et donc qui prennent en compte l'idée que les relations entre les individus dans la vie réelle ont un certain type de complexité et de qualité, et que l'on puisse retrouver, je dirais, cette complexité dans le fonctionnement des relations, je dirais, entre artistes. C'est entre ceux qui produisent et qui consomment dans un système qui n'est pas refermé sur lui-même, mais qui donne à voir à l'extérieur. C'est ça qui est important. Quand on parlait au départ d'une sorte de boucle, alors qu'évidemment il ne s'agissait pas du tout de circularité, et avec la métaphore de l'accélérateur de particules, eh bien ce qui est évident, c'est que ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui correspond à la déperdition d'énergie. C'est-à-dire comment les particules échappent à la boucle pour atteindre un public extérieur, pour atteindre des gens qui n'ont pas forcément produit, mais qui d'une certaine manière peuvent être récepteurs de ce qui est produit. Donc chacun étant une sorte de surface de réception comme ça, de ce qui est projeté par la création de chacun. Il y a aussi une catégorie de travaux intéressants pour In-Out, qui sont les travaux qui ne consomment pas, mais qui produisent et qui donnent. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer d'avoir un travail génératif qui constitue une sorte de source. Et j'utilisais au départ la métaphore de l'oasis, C'est-à-dire que quand au départ c'est un grand désert, quand un espace du réseau est désertique, ce qui est important c'est qu'il y ait des oasis, c'est-à-dire qu'il y ait des sources qui apparaissent comme ça et qui commencent à créer de la vie autour de ça, ça bourgeonne, il y a des choses qui commencent à se passer, évidemment. Donc là, l'étape que nous allons vivre avec l'ouverture de la manifestation sur huit lieux est évidemment une étape très importante parce qu'elle fait naître la chose, je dirais, dans la vie réelle. La deuxième étape, évidemment, qui est absolument nécessaire, c'est qu'il y ait une véritable appropriation sur le réseau et qu'on atteigne la masse critique de la production qui fera que qualitativement, c'est intéressant, les résultats sont de plus en plus intéressants. C'est-à-dire que plus il y a de sources, plus on donne à utiliser, évidemment, plus la chose se complexifie et plus on a des possibilités de choix même en termes de création. Je peux choisir les flux de façon plus libre, donc à partir de là, il y a une diversification des résultats qui est plus grande. Le monitoring, donc je vous en ai parlé, c'est quelque chose de très important, mais qui va vraiment... On ne peut pas dire pour l'instant que nous proposions exactement ce que pourrait être une version assez complète, mais même si on était arrivé à 100% de ce que l'on visait pour le monitoring, c'est-à-dire la possibilité d'observer l'action sur le réseau, on a des outils de monitoring, notamment développés par Pierre, mais il y a aussi des outils de monitoring, d'une certaine manière, qui sont faits par les artistes, parce que ça sert leur projet, ils auront l'occasion d'en parler. Ça a du sens par rapport à leur projet de voir quel impact il a sur le réseau, et donc à partir de là, c'est intéressant de voir ce qui se produit. Mais il est évident que le monitoring aussi va s'étoffer pour la bonne raison qu'il y a 100 000 façons de visiter et d'explorer ce que chacun fait. Les lieux, c'est évidemment quelque chose d'important. Donc pour que ça ait du sens, évidemment, on commence dès le départ avec 8 lieux différents. Donc si on commence par la périphérie, il y a l'école européenne supérieure de l'image à Poitiers. Où donc on a organisé, pour commencer, une rencontre réunissant artistes et chercheurs. On a organisé un workshop aussi. Et il y aura une première participation concrète en termes d'exposition ou d'implication en termes de production dans le courant de l'année 2009. Il y a l'École nationale supérieure d'art de Nancy. C'est là que nous avons fait le premier workshop avec donc une douzaine d'intervenants. L'autre canal à Nancy, où il va y avoir une soirée événement qui s'appelle Pechakucha. Je ne me rappelle plus exactement la raison du nom Pechakucha, mais enfin, il y a une très bonne raison, bien entendu. C'est un lieu intéressant qui travaille plutôt sur les musiques actuelles et qui, dès le départ, donc, a voulu s'impliquer sur le projet. Pour Paris et région parisienne, il y a Ars Longa, donc avec un projet de Cyril Henry qui a déjà commencé et donc qui sert à alimenter partie de ces projets sources. La Bellevilloise, donc où aura lieu le lancement de l'inauguration lundi à partir de 18h, on va dire c'est 17h presse, et puis un petit peu plus tard, avec une sorte d'itinérance pour aller voir les différents lieux. Donc, nous aurons trois projets à la Bellevilloise. Le projet collectionnisme 2.0, parce que Mayumi Okura et Dominique Cunin avaient participé au premier In-Out en 2006, avec un projet collectionnisme qui était une sorte de projet de monitoring, mais surtout un travail sur la mémoire, sur l'oubli, sur la collection, en fait, par rapport au flux. Un projet de Vincent Goudard. Donc, je parlerai un petit peu plus, je dirai deux mots de plus sur les projets, parce qu'après, j'ai quand même une ou deux images sur chaque projet, donc vous en saurez plus. Et donc, une installation de Vincent Goudard et une installation aussi de Vincent Siciliato, donc qui travaille, tout ça, travaille sur l'image, le son, la temporalité, le temps réel, vous allez voir. Donc, la Maison Populaire, donc ici, avec deux projets, donc les cartels d'identité de Thomas Schenzo et Tempo, donc de Émilie Brou et Maxime Marion, qui nous en diront deux mots puisqu'ils sont là. Le studio Pétahertz à proximité d'ici, donc vraiment tout près, on peut y aller à pied, avec trois projets importants aussi par la taille. Olivier Périquet, qui pourrait nous en dire deux mots, parce que je l'ai aperçu. Voilà, il se cache là-bas sous la lampe. qui présentera Comme vous, je connais l'oubli. Donc, une grande installation aussi avec Florent Di Bartolo qui n'est pas par là par hasard, hein, tant qu'on y est. Non, Florent n'est pas là, avec Driving, qui est un projet qui a à la fois de la 3D, du traitement du son, de la vidéo, du montage temps réel. Écosystème d'Alexandre Berthier et Stéphane Perrault, qui est aussi un projet, on va dire, de l'ordre du monitoring, je crois. Au Cube, à Issy-les-Moulineaux, il y a le projet d'Yves-Marie Lourd et Benoît Meudic, Geste, qui est un projet aussi très ambitieux de travail sur la génération en temps réel d'images, le traitement du son. Et c'est un projet stéréoscopique qui est, je crois, tout à fait intéressant à voir et qui fait passer aussi des projets qui vont pas mal circuler, je crois, par la suite. Alors, il y a une section Dogbot qui est prévue, mais je crois qu'on ne sait pas quand. Hein, ça, c'est... je ne poserai pas plus de questions là-dessus. Donc, voilà, hein, ça, je vais juste vous montrer un petit peu quelques représentations là-dessus. Donc, je vous ai dit, collectionnisme, c'est un travail qui porte comme ça sur ce que c'est que la perception de ce qui se passe en flux et quelle peut être une sorte de psychologie synthétique du collectionneur qui serait dans la situation d'essayer de capter comme ça ces flux et de leur donner du sens ou de les interpréter ou de les réorganiser. Et donc là, qui va permettre une itinérance dans ces flux, dans la mémoire de ces flux captés. Le travail de Vincent Goudard qui travaille là. Alors je sais pas comment on prononce son titre. Hein. Je suis un petit peu embêté. S'il y en a qui ont une idée là-dessus, vous me dites, parce que ça peut être F l'infini, mais c'est pas ça. C'est fonction de l'infini, je crois. Je sais plus. C'est F8. Ah ben oui, excusez-moi. Non, mais bien sûr, c'est évident, c'est F8. Puisque c'est tout le sujet. Hein, c'est un travail sur la profondeur temporelle de l'image et du son. Donc tout un travail sur l'approche creusée dans le temps de l'image. Qualia de Vincent Siciliato. Alors là, c'est tout. En fait, il est parti de Tango. De Zbig, qui est ce film en boucle où on commence avec une personne qui reproduit constamment la même scène, et à chaque fois qu'il rentre dans la scène, une autre personne rentre, et puis une autre personne, et puis une autre personne, et il y a une scène de plus en plus complexe où tout se joue comme ça sur la concomitance, l'évitement, la coïncidence, l'altération progressive du sens qui est due à la conjonction comme ça des itérations. Mais il adapte complètement le projet, évidemment, en s'inspirant, entre autres aussi, de Pasolini et de Salo, et avec tout un travail sur la manipulation, le pilotage, le contrôle, on va dire, des individus et toute cette ambiguïté qu'il y a avec l'idée de contrôle sous la dictature et du rapport avec certaines dérives sexuelles et cette ambiguïté qu'il y a entre le pouvoir, le sexe, la vie, la mort et toutes ces sortes de choses. Geste dont je vous parlais tout à l'heure, donc est complètement sur un travail génératif, à la fois 3D, relief, temps réel, mais aussi musical, parce que Yves-Marie et Benoît viennent de la musique, ils travaillent à la fois pour l'IRCAM et pour le Centre Pompidou, l'IRI. Et c'est bien qu'il y ait des gens pour me souffler, c'est l'interactivité, oui. À partir d'une certaine heure, et le vin blanc aidant, c'est toujours plus difficile. Donc ça c'est un projet assez spectaculaire. Le travail de Thomas Schenzo est un travail sur l'idée d'identité et de cartel, c'est-à-dire qu'il fait des cartels dynamiques qui puise l'information, qui se nourrit, je dirais, de l'échange et du flux pour modifier ce qu'il dit de l'œuvre. Et donc son travail est associé aux œuvres qui sont présentées. Donc c'est une espèce de travail parasite, on va dire, qui vient se greffer comme ça dessus, mais qui s'épanouit. On connaît des fleurs parasites qui sont absolument superbes, donc on espère que ce sera une sorte d'orchidée paradisiaque. Tempo, je vous donne la parole.
Oui, bonsoir. Donc, Émilie Brou et moi-même, si tu parlais de travaux parasites pour Thomas, mais nous, on est un pire parasite encore, je pense. On s'est imposé comme
Vous, c'est viral, c'est différent.
un parasite viral, c'est un parasite encore plus fort. Mais enfin, on s'était imposé comme contrainte un petit peu de pas créer vraiment de nouvelles formes à partir des flux, de s'intéresser plutôt à une couche plus bas niveau, au niveau des connexions, des jeux de connexion. Et on est arrivé à ce qu'on a essayé d'envoyer, enfin notre système, c'est un petit peu difficile à expliquer, excusez-moi, surtout avec le vin blanc aidant. On envoie des pulsations comme des petits missiles dans le réseau. Et ces pulsations sont rythmiques. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'au final, plusieurs installations qui seraient connectées à notre flux commencent à adopter un comportement comme des hoquets, comme des répétitions à cause de ces pulsations rythmiques et qu'on puisse ressentir notre action exister à partir de ce moment-là grâce à des reconnaissances de rythme. Si on voit par exemple une voiture qui se met à avancer en cahotant, ça peut être nous par exemple qui sommes derrière. Et afin que ce soit le plus intéressant possible, pour nous, c'était intéressant d'avoir beaucoup d'installations connectées à notre flux, mais ça, on ne peut pas le déterminer. Donc, on a développé un algorithme, entre guillemets, hystérique, qui cherche à se faire apprécier du plus grand nombre, en essayant de séduire un petit peu nos flux. Par exemple, on appelle nos flux d'une certaine manière à ce que les projets qui demandent des flux qui sont, par exemple, calmes, nous, on va... Ça veut dire que notre flux est calme et ainsi ils vont se connecter. Mais après, on leur envoie une espèce de succession de bruit avec des écrans blancs, avec des sondes, du bruit brownien pour un maximum de chaos. Enfin, voilà un petit peu l'idée, quoi.
Je voudrais juste ajouter une chose. Oui, tu veux. Je vais ajouter une chose par rapport à ce projet. C'est qu'en fait, là, vous le présentez vraiment comme quelque chose de perturbant, d'intrusif, d'agressif. Mais en fait, simultanément, vous créez une sorte de synchronisme entre les œuvres. Et donc, vous donnez le tempo comme c'est marqué là. Et en fait, votre intrusion, c'est aussi l'intrusion du chef d'orchestre. Autrement dit, ou du métronome. Autrement dit. En perturbant, il ne faut pas oublier que vous êtes peut-être en train, finalement, de donner la rythmique globale, ce que vous souhaiteriez. Mais c'est pour ça que le système ne permet pas de globaliser, sauf approche sournoise, telle que vous le présentez, qui est, allez, je vais essayer de les séduire, parce que de toute façon, je ne peux pas m'imposer. Le système est fait pour qu'on ne puisse pas s'imposer. Et donc, l'approche comme ça, écoutez, je suis vraiment cool, exactement comme vous l'aimez, etc., évidemment intéressante. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose à observer dans le système, on n'est pas uniquement dans je prends, je donne, mais on est dans j'échange. Eh bien, il y a un type particulier de relation qui s'établit entre le donneur et le receveur, qui atteint une certaine forme de complexité qui est assez proche de la relation amoureuse, la relation de séduction, la relation de haine, la relation d'agression, etc. Donc, on est dans du comportement social tout à fait typique avec son impact, ses dérives. Et je crois que c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des projets qui sont des projets de monitoring. C'est-à-dire que, évidemment, ce qui rend visible votre action, c'est qu'on puisse voir simultanément plusieurs travaux qui reçoivent, qui subissent l'impact de ce que vous produisez. Donc je crois que c'est assez représentatif de certaines choses qui sont possibles, mais on peut penser que d'autres projets ont un usage, j'allais dire presque transparent, parce que là vous prenez vraiment en compte l'essence du projet global, alors que d'autres projets pourraient être simplement, écoutez, moi j'ai juste besoin de son qui rentre, je ne me pose pas de questions. Et puis, si vous voulez utiliser l'image qui sort, c'est votre problème. On pourrait très bien avoir une approche totalement presque consommatrice, pourvu qu'on puisse redonner aussi. C'est pas exclu. C'est-à-dire, il n'y a pas de morale dans le système. C'est-à-dire, il y a un côté faussement généreux au départ en disant « je prends, je donne », mais en fait, il n'y a pas de morale dans le système. Et donc, l'idée d'aller séduire tout le monde pour les manipuler, ça peut être un... Voilà. Ça témoigne, en tout cas, ça dénote une bonne compréhension de ce qui est en jeu. Et évidemment, ce qui est intéressant globalement, c'est que tout ça puisse se manifester et s'activer. Et donc, je vais vous expliquer le travail d'Olivier après lui avoir donné la parole. Tu crois quand même pas qu'il allait y échapper ?
Bon, ok, je vais continuer à me cacher dans la lumière, comme tu dis. Il s'agit d'un projet complètement immoral, puisqu'il ne fait que consommer. Donc, c'est un projet qui est pour l'instant j'ai envie d'appeler ça une sculpture audiovisuelle qui est presque interactive, puisque c'est une version prototype et la version suivante sera une version interactive. Il s'agit d'une sculpture qui évoque le processus de la mémoire avec ses oublis, ses réminiscences, et qui le met en scène de façon assez contemplative, on va dire. Dans la version finale, le public pourra participer en envoyant ses propres images à l'intérieur du système, qui est en quelque sorte une refonte qui s'inspire de la mémoire biologique, donc des réseaux de neurones, etc., mais qui est un pur simulacre. Et donc l'idée, c'est aussi d'ouvrir le système à l'extérieur, que ce ne soit pas uniquement un système qui fonctionne en circuit fermé, mais qui puisse interagir de façon hybride avec le public. Voilà. Et c'est un projet que je réalise aussi avec la participation de Fabiani Deschamps pour la scénographie et de Julien Claus pour le son, et qui est à Pétahertz, juste à côté.
Et de Pierre pour le développement aussi, je crois.
Ah oui, de Pierre pour le développement.
Pierre, à qui je donnerai la parole juste après, enfin quand on a fait le tour, parce que justement il pourra s'exprimer un petit peu sur les particularités du développement. Alors je continue. Donc Driving de Florent Di Bartolo, là c'est un travail aussi assez particulier qui est sur, je suis désolé, hein, je suis dans l'interprétation, je suis obligé d'être dans l'interprétation parce que s'ils ne sont pas là, je ne pourrais faire qu'une dérive sur le projet initial. Donc je vous dis par rapport à ce que j'en sais, parce que je l'aurais vu, pas terminé, mais en tout cas présenté en même temps que vous. Donc le travail de Florent est sur cette errance d'un véhicule comme ça qui erre dans la nuit et qui a l'air de ne plus finir de chercher son chemin. C'est une référence à un film. Pas sûr que ce soit complètement un film majeur, mais c'est un film où pendant tout le film, le gars est en voiture et il va vers la mort. Là, la particularité, c'est que le montage du film et que le déplacement du véhicule est totalement déterminé par le son qu'il reçoit du réseau. Comme s'il était inconsciemment dans cette errance, piloté par quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, qui lui échappe, qui vient d'ailleurs. Et alors là, j'ai pas d'image.
Non, désolé, on n'a jamais donné vraiment d'image. Bon, je me présente, hein, je m'appelle Stéphane Perrault. Donc on tient aussi le studio Pétahertz, donc qui est juste à côté. Et donc avec Alexandre Berthier, on a décidé donc de faire Écosystème. On est venu un peu tardivement sur l'ensemble du projet. Et donc on nous a présenté tout le projet. Et on a décidé donc de faire un projet de monitoring, de récupérer, donc nous aussi on est des consommateurs, on récupère à peu près tout ce qui tombe en données, vraiment des données brutes, et on en fait des monochromes en fait sur une imprimante qui tourne en boucle. On récupère les paquets OSC et on les imprime pour donner jour après jour en fait des grandes feuilles qui vont donner une texture de noir différente à chaque jour, quoi, en fonction des données qu'on aura reçues. Donc c'est plutôt des œuvres picturales, quoi.
Donc l'image est assez juste, là.
Et l'image est assez juste, sauf qu'elle est inversée. Donc, voilà.
D'accord, c'est une version négative.
Non, on a déjà commencé, là, donc ça donne quand même des patterns assez intéressants. C'est assez vivant, même. Donc voilà. Donc c'est le début, malgré tout. Tous les artistes ne sont pas encore présents, donc voilà. Donc j'espère que vous viendrez voir l'imprimante géante, quoi.
Des questions, des réactions
Les huit lieux seront connectés lundi soir
Alors,
pendant l'expo
Pas lundi au cube, puisqu'il est fermé le lundi, hein, mais après le reste du temps, oui.
Concrètement, il y a qui dans les autres lieux? Enfin, est-ce que c'est juste un...
J'en ai fait la liste tout à l'heure.
Non, il y a qui? Je veux dire, un lieu, il y a des gens physiquement qui seront derrière les écrans.
Oui, mais justement, j'ai mentionné par exemple Cyril Henry est à Ars Longa.
Ah, d'accord. Okay.
Donc Alexandre Berthier, Stéphane Perrault, donc, est à Petahertz, donc à côté. Florent Di Bartolo est à Petahertz aussi. Olivier Périquet est à Petahertz. Tempo est ici. Thomas Chenzo ici. Geste au cube. Qualia à la Bellevilloise. Fuite. Ça y est, maintenant je sais le dire. Non, mais ça m'était sorti de la tête. Hein. Désolé. Donc, fuite à la Bellevilloise et collectionnisme 2.0 à la Bellevilloise. Avec un événement à Pechakucha. Donc ça sera le jeudi 4. Donc, en ce qui concerne donc l'autre canal, ça ne sera pas en temps réel. Hein, c'est une présence simultanée parce que ça veut dire qu'il y a des actions qui se développent sur la durée. En fait, X.0, c'est un moment de synchronisme. Mais le réseau est lancé et l'idée, c'est que dès maintenant, il y a des gens qui peuvent faire des choses en ligne, qui ont leur existence en ligne. Le temps d'exposition est un moment privilégié, mais pas du tout, ça ne s'arrête pas à la fin. Et ce que l'on espère, c'est que progressivement, évidemment, il va y avoir de plus en plus de projets qui vont fonctionner en réseau. Et certains des projets que nous voyons ici continuent leur vie en réseau ensuite. Ça, c'est important. Et donc, il y a des lieux partenaires, donc, notamment l'autre canal... l'ENSA à Nancy et l'ESI à Poitiers, qui sont des lieux qui travaillent dans une collaboration long terme sur le projet In-Out. Dans les lieux qui travaillent sur une collaboration long terme, mentionnons aussi l'Art Institute de San Francisco, qui aussi s'engage sur un travail long terme, probablement aussi Vitu à Rotterdam, et on est en discussion pour Ars Electronica. C'est-à-dire que la phase suivante, à part essayer de faire en sorte qu'il y ait une véritable extension sur le net qui devrait largement déborder les manifestations ponctuelles où on présente des installations, la phase suivante est une phase plutôt internationale, mais qui n'effacera pas du tout les participations en France. Mais l'idée, c'est que justement, on ne s'arrête pas spécialement aux frontières et que les projets continuent à s'interconnecter.
Je suis désolée, je pose des questions peut-être bêtes, mais c'est pour mieux comprendre. Hein. Est-ce que lundi, par exemple, moi, depuis mon internet à moi, chez moi, je peux me connecter au réseau In-Out pour voir comment ça marche et éventuellement balancer des flux, en recevoir
Ben oui, tout à fait. J'ai pas tout suivi, je suis désolée, donc je sais pas bien ce qui a été dit et pas dit. Mais en gros, donc sur le wiki, il y a tout un tutoriel qui vous guide pour télécharger les bons modules, parce qu'encore une fois, c'est très modulaire. Donc, nous, on a développé une série d'outils dont on n'a pas forcément besoin selon le projet. Donc, prendre les modules qui sont utiles à votre projet et vous connecter en son, en vidéo, en data assez facilement. Le facilement, il dépend de l'environnement dans lequel vous produisez ce que vous produisez, si la plateforme et si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur autre chose. Donc c'est conçu de manière à ce que ça puisse être compatible avec n'importe quel type d'environnement de production, enfin de création, quoi, de logiciel de création. Mais évidemment, il y en a qui prennent le dessus. Donc là, par exemple, nous, en pratique, il y avait beaucoup d'artistes qui travaillaient sur Mac, MSP. Jitter, donc du coup on a un peu plus poussé au situ sur la compatibilité avec Max MSP. Mais ça marche en théorie avec n'importe quel environnement, oui.
Donc la question là, c'est est-ce qu'on peut lundi aller en ligne, voir des choses, etc. Un des éléments de réponse, c'est qu'en fait, on peut y aller dès maintenant. Évidemment, on peut y aller avant aussi. Hein. Vraiment, la particularité de ce qui se passe à partir de lundi, le CUBES a commencé un petit peu avant, c'est qu'il s'agit de présentation de pièces dans l'espace physique. Mais dans la logique du projet, au bout d'un moment, la partie en ligne sera beaucoup plus importante que ce qui se passera dans l'espace physique. Et c'est même ce qui va faire que ça continue de se développer. Donc, bien sûr, il y a des choses que l'on peut voir ou faire en ligne. Là, comme on est en train d'amorcer, c'est vraiment le lancement. Donc, il ne faut pas s'attendre. Si on y va aujourd'hui, on ne va pas trouver grand-chose, je pense, en ligne. Au niveau contenu, hein, on va trouver sur des informations précises et tout ce qu'il faut pour s'y connecter et y participer. C'est-à-dire que avec un miracle, on pourrait avoir 50 personnes que je n'ai pas mentionnées ici qui participent, qui présentent des choses, etc. Et d'ailleurs, la présentation d'outils de consultation ou de monitoring permet justement de découvrir que y en a d'autres que ceux qu'on a mentionnés. C'est pour ça que lorsqu'on mentionne les artistes qui participent, on dit que ça commence avec. Et la liste ne s'arrête pas là. Hein. L'idée n'est pas de privilégier ce qui se trouve dans l'espace physique, mais plutôt de dire, voilà, c'est le lancement, et ce n'est pas un projet qui niera la possibilité d'intervenir dans l'espace physique. Mais ça n'est pas du tout une nécessité. Voilà.